Vous écoutez France Culture.
Réplique, quel est le goût de la vie à deux, avec Claude Habib et Pascal Bruckner. Dans deux essais remarquables, Le paradoxe amoureux, paru en 2009, et Le mariage d'amour a-t-il échoué, qui date de l'année suivante, Pascal Bruckner dénonce avec force les ravages de l'idéal romantique et du culte moderne de l'intensité sur nos existences imparfaites. Plaidant pour une approche plus sage, c'est-à-dire plus modeste des choses de la vie, il écrit « On ne peut rien bâtir sans passion, on ne peut rien bâtir de durable sur la seule passion. » Qu'il y ait une vie à deux possible et même désirable après la fête du désir et le paroxysme de la passion, c'est ce qu'entend montrer Claude Habib dans un essai précisément intitulé « Le goût de la vie commune ». « Je suis spontanément conjugaliste », jette-t-elle d'entrée de jeu à la tête de la pensée spontanément moderne, selon laquelle 1. Il ne faut jamais céder sur son désir, 2. La beauté dans l'amour ne saurait être que convulsive. En quoi est-il fautif de voir les choses ainsi, Claude Habib ? Que répondez-vous à tous ceux qui, par expérience ou par observation, sont convaincus que la vie commune finit toujours par avoir le goût amer du renoncement?
J'ai rien à leur dire parce que je ne vends aucune formule, même sur le bandeau, un éloge de la vie à deux est presque trompeur. Je ne veux pas prêcher, je ne veux pas provoquer, je veux décrire simplement. Et la description qui prévaut du couple, elle est largement masculine. C'est l'idée de la cage. On est captif, on est enfermé. Vous savez, les hommes courent après les femmes jusqu'à ce que les femmes les attrapent et après ils sont piégés. Ce qui fait que le couple est vu comme un enfermement. Et quand c'est valorisé, je veux dire dans le discours ambiant, ça arrive que ce soit valorisé par des hommes, mais comme abri. Hein, c'est le thème du shelter, give me shelter. Même ce pauvre Mick Jagger disait ça, la recherche de l'abri. Mais pour une femme, je crois que c'est très différent. Je crois que le mouvement, le désir de se mettre en couple est un essor, est un départ dans la vie, et que cette dynamique, ce grand mouvement d'expansion par l'amour et le désir continue dans le couple, et que le couple pour moi, mais aussi pour beaucoup de femmes avec qui je peux m'entendre, représente un mouvement de synchronie. Comment faire pour rester dans l'entente? Et c'est un mouvement subtil d'essayer de comprendre ce que pense l'autre, d'essayer d'épouser son rythme. Et c'est un mouvement permanent au cours de la vie. C'est-à-dire que ce qui m'importe, si vous voulez, dans l'ancien terme convolé en juste noces, je laisse tomber la justice, je laisse tomber les noces, mais je garde cette image de convolé. Voler ensemble.
Oui, convolé, voler ensemble, mais vous dites que c'est principalement le désir des femmes. Or, pour que vie commune il y ait, il faut que les deux partenaires en aient le goût. À vous entendre, seule une femme peut écrire ce livre. Mais alors, cette dissymétrie ronge justement la vie commune que vous célébrez.
J'ai jamais pensé que la dissymétrie rongeait le rapport des hommes et des femmes. J'ai au contraire pensé toujours que cette dissymétrie était ce qui l'anime. Et le fait qu'en effet, dans les affaires de désir et de famille, il y ait une initiative et un génie proprement féminin qui s'investissent, j'en suis sûre. Alors évidemment, là, ça me met en décalage par rapport à l'égalitarisme ambiant qui est souvent aplanissant et qui refuse de penser la différence des sexes. Mais des formules comme « l'amour et le règne des femmes » que j'ai appris chez Jean-Jacques Rousseau, j'ai jamais voulu les désapprendre. Je crois qu'il y a réellement une affinité, une compréhension autre par le génie féminin de ces dimensions. D'ailleurs, regardez la presse féminine, les affaires de cœur, de jalousie, etc., occupent les trois quarts de ces magazines. On ne voit pas que la même chose soit vraie dans la presse masculine.
Alors, je me tourne vers le génie masculin que j'ai en face
alors,
de moi.
Alors, je suis très embarrassé parce que je suis presque d'accord avec ce que dit Claude Habib. Et c'est vrai que... on regarde le couple un peu comme un attelage improbable lorsque l'on est jeune. Lorsqu'on se tient à l'extérieur du couple, on le regarde avec envie, comme une sorte de bourre cotonneuse où on a envie de s'abriter, pour reprendre le terme que vous avez utilisé. Et quand on est à l'intérieur, on a tendance à le vivre comme une prison. Et pour ma part, j'ai toujours oscillé entre ces deux attitudes. Mais spontanément, et c'est peut-être le fait aussi que les hommes se sont considérablement féminisés, je suis tout comme vous un animal conjugaliste, même si ça n'est pas toujours le même couple.
Oui, mais alors, vous dites, l'homme s'est féminisé. Si je jette un coup d'œil derrière moi sur les philosophes qui ont parlé d'amour, alors bien sûr, il y a le fondateur, Platon, le banquet... mais enfin, il y en a un très important qui s'est mis en porte-à-faux avec son époque romantique, c'est précisément Kierkegaard. Certes, l'homme Kierkegaard n'a jamais fait le pas décisif, il a rompu avec sa fiancée, mais on trouve dans toute son œuvre un éloge absolument extraordinaire de l'amour conjugal. Et par exemple, quelque chose qui, je trouve, annonce... vos propres réflexions, Claude Habib, parce que Kierkegaard parle à un interlocuteur et il lui dit « Il n'y a de vie, crois-tu, que dans l'inquiétude de l'esprit, mais tous les gens d'expérience pensent qu'il n'y a de vie véritable que dans la paix de l'esprit. Pour toi, l'océan déchaîné offre l'image de la vie, pour moi, je la trouve en contemplant le calme profond des eaux. » Souvent, je m'arrête au bord d'un ruisseau. Il fait toujours entendre la même douce chanson. Les mêmes herbes s'inclinent au fond, sous le courant paisible. Les mêmes bestioles s'y meuvent. Un petit poisson se faufile sous une cachette de fleurs. La vie domestique est ainsi paisible, modeste en son murmure. Elle n'offre guère de changement, mais semblable au ruisseau, elle a sa chanson, chère à qui la connaît, et chère parce qu'il la connaît. Sans faste, elle prend parfois un éclat qui, cependant, n'interrompt pas son cours accoutumé. Ainsi, les rayons de la lune tombent sur le ruisseau et révèlent l'instrument sur lequel il joue sa chanson. Telle est la vie domestique des époux. Et c'est un homme qui s'exprime tout de même. Donc.
C'est d'une très grande beauté. J'ai honte de votre présentation. Kierkegaard annonce Claude Habib. Enfin, je ne suis pas à la cheville d'un texte pareil.
Si, tout à fait.
C'est magnifique. C'est magnifique. Et oui, j'ai essayé de faire un éloge du calme parce que le vacarme ambiant, le brouhaha, le désir du tumulte qui accompagne la démocratie, qui accompagnait la démocratie athénienne et qui accompagne la nôtre, nous fait perdre le sens de cette ressource du calme. Je suis persuadée que c'est pour ça que je vais jusqu'à un éloge de l'ennui qui est évidemment un peu ironique. Bien sûr qu'il faut résister à ce qu'il y a d'angoissant et d'oppressant dans l'ennui. Bien évidemment, mais dans le calme, il y a les moyens de la liberté vraiment intéressante. C'est-à-dire que c'est à partir de la paix qu'on peut penser et qu'on peut se développer de manière individuelle. C'est pour ça que je ne mets pas du tout le couple à l'opposé de l'individu, mais le couple permet ce qu'il y a de plus précieux dans...
cette comparaison avec Kierkegaard, je la maintiens, parce que je pense... aussi à une phrase magnifique de Bataille, qui va tout à fait à l'encontre de ce que dit Kierkegaard. « Si ce monde n'était pas sans cesse parcouru par les mouvements convulsifs des êtres qui se cherchent l'un l'autre, il aurait l'apparence d'une dérision offerte à ceux qui l'auraient fait naître. » Donc, convulsion ou dérision. Et il me semble que votre livre nous sort de cette alternative et que vous explorez une dimension de l'existence que précisément le culte de l'intensité nous a conduit à délaisser. D'où la reconnaissance d'un certain nombre de lecteurs, et je dois dire qu'ils soient hommes ou femmes. Parce qu'on se dit, bah oui, cet aspect-là de la vie, nous avons le droit de le chérir et, et il est heureux qu'un écrivain la pense. Parce que, en effet, cet aspect-là était complètement négligé. Voilà, c'est ça.
Et il était non seulement négligé, mais ringardisé. C'est-à-dire que la paix, l'entente sont ceux dont on se sépare parce que ce qui occupe l'espace médiatique, c'est la révolte. C'est la révolte et c'est le moment adolescent. Le moment adolescent consiste à rompre et donc à penser des formes d'amour et d'union au contraire de la famille. Je résume, nous serons comme nul ne fut, nous ferons comme nul n'a fait. Hein, c'est le moment où on prend appui contre les modèles parentaux pour vouloir du tout autre, parce que les parents sont ce qu'ils sont, ils sont vieux, ils sont dans le désamour, et ils se répètent, c'est le ressassement. Moi, je veux pour moi une vie de jouissance et une vie extrême. Alors ce moment adolescent, il a parfaitement son droit d'être. Je veux dire, à 16 ans, on ne peut pas penser autrement. Mais prolonger, répéter à 35 ans ce genre de Freuden, comme font tous les magazines stupides, je trouve ça lamentable.
Avez-vous été cet adolescent-là et l'êtes-vous resté pour une part de vous-même?
Oui, je crois qu'on le reste. Mais d'abord, il faut dire que le couple n'est pas une espèce en voie de disparition. C'est la forme la plus courante de nos attachements aujourd'hui. Et c'est plutôt notre perplexité face à la vie conjugale qui signe la modernité que notre refus du calme et de la mer tranquille de la vie à deux. Pour reparler de Kierkegaard, il est quand même très curieux de penser que cet homme n'a jamais connu l'amour. Et donc, comme si on ne parlait bien de l'amour que si on ne le vivait pas. Et il avait une sainte horreur, non seulement des attachements humains, mais même du contact physique. Et donc, du coup, ça relativise beaucoup sa réflexion sur l'amour, qui est la réflexion d'un spectateur et non pas de quelqu'un qui s'y est directement impliqué.
Oui, c'est peut-être aussi le miracle de l'écriture, parce que ce spectateur dit sur le lien, l'attachement conjugal, des choses que personne avant lui n'avait dites. Et on reconnaît la portée de cet éloge du calme qu'on trouve, que j'ai dit tout à l'heure, non, Pascal Bruckner?
Oui, mais la vie conjugale est spontanément calme, donc je ne suis pas sûr que Kierkegaard, sur ce plan-là, ait apporté quelque chose de la même façon qu'il écrit le journal du séducteur, venant d'un homme qui, lui, n'a jamais séduit personne. Donc c'est un admirable porteur de masque, mais je ne pense pas que ce soit un penseur de l'amour. Alors, si on veut parler du couple, il faut bien voir aussi quelle est la révolution qui a eu lieu depuis un demi-siècle. Il y a une double révolution, révolution romantique. Nous voulons des cœurs parfaitement accordés et constamment dans la fusion et les fusions et révolution sexuelle, où le corps doit avoir la primauté. Et donc nous sommes les héritiers de cette double révolution que nous essayons d'installer dans la vie quotidienne. Et c'est de cette difficulté dont nous sommes précisément les héritiers. Mais nous ne pouvons pas, au nom de l'éloge du calme, faire l'économie de la véhémence, car sinon, ce serait mettre le couple sur le même plan que la monotonie. Et de cela, je crois que personne n'en veut autour de cette table.
Ah! Alors, est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce que...
Sur la monotonie, je ne sais pas. Oui, bien sûr, on n'a pas envie que le couple, ce soit le renfermé, l'odeur de moisi. Mais enfin, sur la monotonie, il y a une phrase de vous qui m'a arrêtée. Vous dites que vous préférez la griserie des commencements à la grisaille du ressassement. On ne peut qu'être d'accord et en même temps. Si on s'oppose à la grisaille du ressassement, on ne restera jamais en couple, puisqu'il y a forcément de la répétition, il y a forcément des passages qui ne sont pas exaltants. Vous dites vous-même qu'il faut savoir s'ennuyer ensemble. Vous savez, Aragon disait, dans un roman, le plus difficile, c'est de faire du gris. C'est-à-dire, entre les deux scènes spectaculaires, de tracer cette quotidienneté, cette vie courante. Je crois qu'il faut accepter quelque chose de la grisaille.
Alors justement, vous avez employé le mot de monotonie, Pascal Bruckner, et là j'aimerais qu'on s'y arrête, parce que Cet éloge de l'ennui que vous faites au début de votre livre, Claude Habib, m'a un peu heurté parce que il m'est arrivé de m'ennuyer avec une compagne et de me dire alors tout est perdu. Parce que, évidemment, je comparais l'ennui à la beauté des commencements, je m'en voulais, je lui en voulais de m'ennuyer, et quelquefois, je sortais artificiellement de l'ennui par le biais de la scène de ménage. Au moins, il se passait quelque chose. Donc, je ne me pardonne pas et je ne pardonne pas l'ennui. Je crois que la monotonie, c'est un peu différent. Je comprends un éloge de la monotonie, peut-être que vous entendiez la même chose. Et là, j'ai une phrase de Simone Veil m'a éclairée. Elle est magnifique. La monotonie est ce qu'il y a de plus beau ou de plus affreux. De plus beau si c'est un reflet de l'éternité, de plus affreux si c'est l'indice d'une perpétuité sans changement, tant dépassée ou tant stérilisée. Et Kundera, dans le plus beau chapitre de l'un de ses plus beaux romans, L'insoutenable légèreté de l'être, sur le chien Karénine, parle de l'idylle. Et il dit, l'idylle, c'est quoi ? C'est le bonheur dans la répétition. Il y a un bonheur dans la répétition qui est l'idylle même. Et en effet, le couple heureux, c'est un couple qui vit très bien la répétition. Les tâches qu'on partage, les moments qui reviennent, tout cela peut créer une espèce de douce euphorie qui est l'une des dimensions du bonheur conjugal.
Oui, je suis évidemment d'accord avec cela. Je pense que les habitudes dans un couple, c'est ce qui permet de rendre la vie prévisible. Et rien ne serait pire finalement qu'une vie à deux où l'autre pourrait du jour au lendemain vous quitter, changer d'avis. Ce genre de couple existe et est extrêmement difficile à supporter. Mais il ne s'agit pas de choisir la véhémence contre la tranquillité, car à ce moment-là, ce serait un choix impossible. Mais il y a une tragédie contemporaine du couple que nous ne pouvons pas méconnaître et qui n'est pas tout à fait celle de nos parents. Nos parents s'installaient dans la vie conjugale. Le divorce était rare, surtout pour les femmes. Et les femmes acceptaient d'endurer un certain nombre de souffrances, de malheurs, de frustrations, notamment la frustration professionnelle, parce que ça se faisait comme ça. La tragédie moderne est très différente, c'est-à-dire que nous oscillons dans le couple entre la présence d'un autre qui au début est trop riche, trop libre, trop vaste pour nous et que nous tentons de maîtriser, et puis insensiblement avec le temps, cet autre, nous finissons par l'apprivoiser et il risque un jour de prendre la consistance d'un meuble, de la même façon que nous risquons nous-mêmes d'apparaître à ses yeux comme une personne extrêmement, là aussi, prévisible et sans surprise. Et donc, la tragédie contemporaine du couple, c'est la passion ruinée par elle-même. Car au fond, la passion résiste à tout, sauf à son propre triomphe. Et il y a une très belle phrase de Paul Morand dans Lewis et Irène qui dit: il s'appartenait dans la lumière la plus dure, la lumière du bonheur. Effectivement, à partir du moment où l'amour est autorisé, où la société tout entière encourage les expérimentations sexuelles et la passion, plus rien ne s'oppose à nos élans, sinon les élans eux-mêmes qui finissent par agoniser. Et c'est ça, me semble-t-il, qui explique l'extrême volatilité des couples contemporains, qui fait que les gens se quittent vite parce que justement, ils sont arrivés trop rapidement à la satiété.
Oui, j'aime beaucoup ce que vous venez de dire. Vous retrouvez une formule de Marivaux sur la meilleure façon de faire cesser l'amour, c'est de le satisfaire. Donc, entièrement d'accord sur le fait que cette consommation peut être un facteur de ruine. Mais il y a un au-delà du désir sexuel, j'en suis persuadée. Il y a un vivre ensemble au-delà du désir qui est le... Quand on lit, la doxa nous dit qu'est-ce qui fait tenir un couple, c'est le désir. C'est évidemment faux. C'est-à-dire qu'après 4 ou 5 ans, je ne sais pas, c'est certainement à l'extérieur que le désir est le plus excitant. Et donc le couple est forcé de se protéger du désir. Il est forcé d'assourdir. Cette excitation, c'est une chose qu'on ne dit pas parce que ça nous consterne. On voudrait que le corps soit glorieux de 16 ans à 90, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est certainement pas dans le désir physique que se trouve la durée du couple, mais je crois que c'est dans dans le désir de synchronie dont je parlais au début. À part ça, il y a un statisticien américain qui a fait des études dans un livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow, qui fait des statistiques sur tout et qui a fait une statistique extrêmement amusante sur l'espoir des gens qui vont se marier et l'espoir des gens 5 ans après. Et on voit que la courbe est frappante. Les gens qui vont se marier, c'est très au-dessus de la moyenne de la population. Et 5 ans après, ça passe très en dessous de la moyenne de l'optimisme. Donc, il y a évidemment quelque chose qui est très net dans votre livre sur, dans votre deuxième livre sur la conjugalité. Il y a quelque chose de l'espérance qu'il faut diminuer. Il faut un peu redescendre de nos échasses. Ça me paraît raisonnable.
Oui, mais en même temps, j'ai trouvé une phrase de Bataille dans l'érotisme qui, sans tout à fait démentir ce que vous venez de dire sur l'usure inexorable du désir, apporte une nuance, une phrase très belle, l'habitude a le pouvoir d'approfondir ce que l'impatience méconnaît. Et j'ai trouvé ça dans l'érotisme. Mais
oui, je pense que c'est la même chose que Paz. C'est-à-dire que si vous voulez faire durer l'érotisme, effectivement, vous pouvez le faire durer 30 ans. Mais si vous voulez le faire durer l'érotisme, il ne faut absolument pas la familiarité. Hein, c'est l'idée d'Ottavio Paz dans La Flamme double. On peut absolument ritualiser des rencontres interdites et que l'érotisme soit conservé sous cloche dans cette forme interdite. Il a raison.
Mais alors, attendez, mais peut-être vais-je plaider cette cause-là autrement. Parce que vous parliez, Pascal Bruckner, de nos parents. Et le scepticisme qu'on peut éprouver à l'égard du couple, même quand on se met soi-même en couple, tient à deux images. D'une part, l'image de l'échec, ces couples rances qui se disputent tout le temps. Les deux partenaires sont exaspérés l'un par l'autre. Mais il y a une image effrayante aussi du bonheur conjugal. Ça marche très bien, mais le prix à payer, c'est l'indifférenciation. Vous en parlez, ces couples gémellaires, ces couples quasi incestueux. Alors, il arrivait que l'un dise à l'autre papa et l'autre maman, mais même si on ne va pas jusque-là, à un moment donné, voilà, c'est la fusion triste, en quelque sorte. Et de cela, nous savons que nous ne voulons pas. Et c'est d'ailleurs, je crois, ce qui un peu a déclenché le nouveau désordre amoureux. Pour moi, ça a été Lévinas disant « La relation de l'homme à l'autre est meilleure comme différence que comme unité. La socialité est meilleure que la fusion. La valeur même de l'amour est l'impossibilité de réduire l'autre à moi-même, de coïncider dans la similitude. » Et c'est précisément quand on ne coïncide pas dans la similitude parce que, malgré la familiarité, malgré la prévisibilité, l'autre n'est pas tout à fait là, à demeure, on l'a pas sous la main, elle ou il travaille, etc., que précisément la vie conjugale peut se perpétuer et peut-être avec elle, justement, le désir, Pascal Bruckner.
Oui, cette utopie d'un désir qui dure, dont parle Claude Habib, c'est à mon avis la grande folie et la grande beauté de l'âge moderne. C'est-à-dire que contrairement à nos ancêtres, non pas à nos parents, parce que quand même ils n'étaient pas si loin dans le temps, mais contrairement à nos ancêtres, nous avons fait venir la sexualité dans le couple, et une sexualité qui veut l'épanouissement permanent. La sexologie date, je crois, du début du XXe siècle. Et désormais, compagnonnage rime avec dévergondage. Et à cet égard, le film X est devenu presque un des beaux-arts ménagers à côté du jardinage, de la cuisine. Les couples regardent cela pour se stimuler. Et donc, cette utopie de la sexualité durable est très touchante, mais évidemment vouée peut-être à une certaine difficulté. Les gens font des efforts et la sexualité rassure, elle permet de calculer les rapports hebdomadaires ou mensuels. Mmh. Tout dépend évidemment de l'assiduité que l'on montre à ce genre d'exercice. Et à cet égard, je crois que le grand mensonge contemporain est un peu l'inverse de celui qui agitait les générations précédentes. Vous savez, quand le rapport Kinsey est sorti aux États-Unis, les Américains ont découvert horrifiés que leur moralité ne correspondait pas à leurs valeurs et qu'ils trompaient leurs femmes, qu'ils avaient des relations homosexuelles, qu'ils pratiquaient l'adultère. Les rapports contemporains sur la vie érotique des Français nous montrent exactement le contraire. Nous nous vantons en permanence de performances extraordinaires, de perversions de toutes sortes. Et la vérité, c'est que les femmes se plaignent de s'ennuyer au lit, se plaignent de ne pas ressentir un grand plaisir et les hommes souffrent toujours des mêmes difficultés. Par conséquent, l'hypocrisie ancienne mettait face à face un ordre moral qui n'était pas suivi par les individus. L'hypocrisie moderne, c'est au contraire cette vantardise que nous affichons par rapport à notre liberté corporelle.
Ce n'est pas une hypocrisie, c'est une vantardise. Une vantardise permanente. Oui, je suis absolument d'accord avec ce diagnostic sur qui nous sommes, sur ce que nous sommes devenus. Au fond, je vous ferai un seul reproche, Pascal, parce que je suis vraiment souvent en consonance très grande avec vos propositions.
Faites-moi un reproche, comme ça nous serons presque un couple qui se chamaille voilà. À la radio.
Bien, c'est justement sur la chamaille que je voudrais vous reprendre, parce qu'au fond, si j'ai l'impression de dire quelque chose, c'est des choses très triviales du type A égale A, c'est pas un livre compliqué ni sophistiqué que j'ai fait, et en particulier que la paix, ce n'est pas la crise. Or, au moins un moment, parce que vous êtes très pluriel, hein, vous couvrez beaucoup de situations, mais vous faites une sorte d'apologie de la scène de ménage qui est comme le coup de tonnerre, et puis après la pluie et le beau temps, heureux effet de la scène, elle permet de dire tout ce qu'on avait sur le cœur, vertu cathartique, etc. Et là, vous êtes là, à mon avis, dans le bruit ambiant, si je puis dire, et je crois que c'est extrêmement faux. Je crois que, ou alors avec un paradoxe à deux pour dire la fièvre c'est très bien parce que l'organisme lutte contre la maladie et la fièvre c'est mieux que la mort. Mais sinon, il faut franchement dire que la scène c'est le contraire de l'entente. C'est vraiment le moment où les gens ne veulent pas s'entendre et tiennent à leur version, tiennent à leurs affronts, tiennent à leur ressentiment. La conflictualité dans le couple, elle est très défendue par... Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui s'entendent mal et qu'il ne faut pas désespérer bien en cours. C'est possible que ce soit quelque chose comme ça, ou parce qu'il y a le féminisme derrière et il faut quand même que toujours l'homme sache qu'il est l'oppresseur. Mais de quelque raison qu'on part cette vie de chamaille permanente, je trouve que c'est passer à côté de ce qui est à faire pour vivre heureux ensemble.
Pascal Bruckner.
Mais je crois qu'il faut parfois réveiller le couple par un tumulte. Et de toute façon, nous ne sommes pas maîtres de nos scènes. Ça, je crois qu'il faut bien le voir. Si la scène se déclenche, c'est parce qu'elle traduit une irritation des époux ou des amants. Je dis aussi à la fin de ce chapitre, enfin de cet encart, que lorsque la scène devient permanente, lorsqu'elle se transforme en mode de vie, elle métamorphose les époux en espèce de guerriers qui n'ont rien d'autre à dire que la haine qui les pousse l'un vers l'autre. Mais regardez ce film merveilleux qui, pour moi, a été très longtemps le symbole du couple, Le Chat de Pierre Granier de Fer, avec Jean Gabin et Simone Signoret. Oui. Un couple qui se hait en permanence. Et finalement, la seule vengeance que Jean Gabin exerce à l'égard de son époux, c'est de tuer son chat. Et finalement, on s'aperçoit que ce couple qui se déteste à un profond attachement l'un envers l'autre. Et moi, ce qui m'intéresse dans l'amour, c'est la simultanéité entre justement le sentiment et la haine. L'amour et la haine sont deux sentiments extrêmement proches qui parfois basculent instantanément de l'autre côté.
C'est fou que vous êtes classique, hein. Vous retrouvez tout le temps du La Rochefoucauld, du Marivaux.
Mais je ne suis pas classique, je suis de tradition française, je pense qu'ils avaient profondément raison. Simplement, l'important, c'est de revenir de l'expression de la fureur à une certaine forme de ferveur pour l'autre. Sinon, il faut mieux se séparer.
Tout de même, Pascal Bruckner, vous êtes peut-être profondément classique, mais nous n'en sommes pas moins, les uns et les autres, non pas modernes, mais postmodernes. Et j'en reviens à Kierkegaard, que je persiste à considérer comme un très grand penseur de l'amour, mais il y a cette phrase absolument magnifique: le pas de l'amour est léger comme la danse sur la prairie, mais la résolution saisit et soutient l'homme lassé en attendant que reprenne la danse. L'amour n'est rien s'il n'est pas durable, et il n'est durable que soutenu, dit Kierkegaard, par la résolution. Mais la résolution tient aussi à une certaine position métaphysique qui n'est plus la nôtre, excusez-moi de cette emphase. L'homme comme sujet, auteur, souverain de ses actes, être de volonté. Ce fardeau, nous ne le portons plus. Nous ne sommes plus des sujets en ce sens, nous cédons volontiers au diktat de notre désir, puisque l'authenticité n'est pas dans la volonté, elle est dans le désir avec ses intermittences. Et là, ça crée une situation tout à fait paradoxal, me semble-t-il, que vous explorez dans votre livre Apparaître, Un bon fils, une autobiographie, parce que vous avez cette phrase. Dans les moments de découragement, je me dis que mon existence n'aura été qu'une longue scène de ménage avec des personnes différentes. Oui, puisque précisément nous ne sommes plus ce sujet tenu par la résolution, donc nous vivons des successions de vie conjugale. Mais au fond, la monotonie nous rattrape, puisque voilà. Scène après scène après scène. Bien entendu, ce sont des moments de découragement et je suis absolument certain que votre vie ne s'y résume pas. Mais c'est un peu quand même le grand paradoxe de la postmodernité. Nous ne renonçons pas au couple, nous ne sommes pas assez résolus pour aller jusqu'au bout avec la même personne et voilà l'un des résultats possibles, Pascal Bruckner.
Oui, alors là, évidemment, dans une autobiographie, on est sincère, c'est-à-dire que justement, on ne cherche pas à dresser de soi une statue magnifique et à faire l'éloge d'une vie que l'on ne se sent pas capable de vivre. Alors, c'est peut-être la différence d'avec vous. Je suis conjugaliste, mais j'avoue une certaine difficulté à m'y résoudre complètement. Il me semble que la grande différence, justement, d'avec les siècles passés, c'est que nos ancêtres considéraient la passion comme un danger. C'était une pente à laquelle ils ne voulaient pas céder. D'ailleurs, la société leur interdisait d'y céder. Et s'ils y cédaient, ils se mettaient en infraction et mettaient en danger le couple et la famille. Nous, au contraire, nous avons décidé de nous construire sur le culte des passions. Et nous constatons avec un certain désarroi, non pas que la passion nous conduit à la scène, car tout le monde se fait des scènes, même les gens qui refusent la scène comme catharsis. Je suis sûr que dans l'intimité, ils ont aussi des moments très agités et très furieux contre l'autre. Ça, je ne connais pas de couple sans scène. Mais c'est surtout...
Non, il y a des couples sans scène.
Les passions nous jouent le mauvais tour de nous quitter un jour. Et ce que nous redoutons, plus que tout, ça n'est pas l'irruption des passions, c'est leur disparition, c'est leur évanouissement. Et ça, je crois que c'est le grand malheur contemporain. Nous faisons l'éloge d'un élan qui nous abandonne beaucoup plus vite que prévu. Nous allons très souvent vers la banqueroute de l'éros.
Non, mais c'est difficile de vieillir, puisque on cite les classiques, peu de gens savent être vieux. C'est extrêmement difficile, ce départ des passions dont vous parlez.
Ça peut arriver même très jeune, hein, de ne plus avoir de désir pour une personne et donc de déclarer forfait.
Vous avez raison sur le fait qu'on est passé de « il ne faut pas céder à son désir » à « il ne faut pas céder sur son désir ». C'est parfaitement clair qu'on est sur cette ligne de crête.
D'où effectivement l'étrangeté du thème qui est gardien de la résolution. Ce terme qui est caradien, c'est effectivement une image du sujet volontaire et ce fardeau de la subjectivité, quand même, nous nous en sommes défaits, pour le meilleur et peut-être pour le pire, pour une succession d'intérims conjugaux. Enfin, en plus, le « nous », il faut peut-être... Il faut peut-être pas toujours dire « nous », parce que la vie... l'humanité est une communauté des exceptions, disait justement Hannah Arendt, et en matière amoureuse, tout particulièrement. Moi, j'ai fait beaucoup de scènes, j'ai vécu beaucoup de scènes, mais c'était à cause des enfants, et les enfants élevés... je vis une existence conjugale à peu près exempte de toute scène. Il ne faut pas oublier les cas particuliers.
Une des sources, la scène de ménage, c'est bien évidemment le fait que le désir s'oriente ailleurs, c'est l'adultère. C'est bien sûr que c'est ça qui est central dans les scènes de ménage. C'est tu ne m'aimes plus, tu ne me désires plus. C'est le facteur le plus important. Alors, vous citez quelque chose de très beau d'Unamuno, disant quand ma femme a une atteinte aux gens,
C'est moi qui souffre.
C'est moi qui souffre. On voit bien que le moment adultère, c'est le moment où mon plus grand bonheur est sa souffrance à lui. Hein? C'est le moment où le « nous » ne peut plus exister, puisqu'il n'y a plus de sensorium commun. Il y a le fait que ma joie divorce de sa joie. Ma joie fait sa souffrance. Donc, le fait de se l'interdire, le fait de de se refuser au désir est toujours quelque chose d'actualité si on veut le nous.
Si on veut le nous, oui.
Si on veut le nous.
Mais
il n'y a pas moyen d'avoir ce sens commun de je souffre de tes peines et je jouis de tes joies si on se sépare pour sa propre jouissance. Donc, comment dire, l'adultère est peut-être inévitable car nous sommes tous faillibles, mais cela dit, il n'est pas recommandable. Voilà la différence entre moi et Magazine.
Oui, alors, sur Kierkegaard, la résolution chez Kierkegaard, c'est l'équivalent du salut religieux. C'est-à-dire que c'est son engagement en faveur du christianisme qui fait que pour lui, le mariage, comme la conversion, est un acte irréversible sur lequel nous ne pouvons pas revenir. C'était d'ailleurs également, un peu plus tard, le sens de l'amour fou d'André Breton, qui est un livre assez étonnant, puisque c'est un livre qui récuse complètement l'idée même de l'ennui en couple, car dit-il, l'être aimé a tant de facettes que je dois pouvoir les repérer toutes. Et le paradoxe, dans le cas de Kierkegaard, il ne s'est jamais marié, et dans le cas de Breton, il s'est lui, au contraire, marié plusieurs fois, et donc il a trahi ses propres principes, comme nous le faisons tous. Dès que nous parlons d'amour, je crois que nous sommes tous condamnés à professer des choses que nous ne suivons pas. Et c'est un peu ça la difficulté dans laquelle nous sommes et que nous devons reconnaître avec beaucoup d'honnêteté. Quant à l'adultère, eh bien que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, je pense que effectivement c'est l'obsession de tous les couples, à savoir est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'elle me trompe. Mais l'adultère peut être aussi vu comme un moyen de ranimer une flamme vacillante.
Je rappellerai. J'en crois pas un mot.
Ah si, moi je le crois beaucoup. Et je rappellerai la formule défendue par Bertrand Russell en 1929, lorsqu'il faisait un livre sur le mariage. Et il disait, il y a la formule à la française, où les époux se laissent toute liberté d'aller voir ailleurs, pourvu que la structure familiale soit maintenue. Et c'est ce qu'on appelle les arrangements à la française. Et sur ce plan-là, je me sens très français.
C'est cohérent avec l'histoire.
Je voudrais dire simplement que le livre de Claude Habib, son mérite, me semble-t-il, c'est de ne jamais professer ou prêcher. C'est un livre qu'on aime parce qu'il est descriptif et qu'il décrit une réalité abandonnée par la littérature en tant que celle-ci est en quelque sorte obnubilée par la convulsion. Donc, mais alors,
C'est aussi parce que pour la littérature, c'est beaucoup plus facile d'écrire le malheur et ce qui ne va pas que de décrire le bonheur. De même que les peuples heureux n'ont pas d'histoire, les couples heureux n'ont pas d'histoire.
Oui, mais enfin, il y a un certain nombre d'écrivains qui ont essayé, ou de romanciers, qui ont essayé de penser et donc de décrire la durée dans l'amour, même s'ils ne sont pas très, très nombreux. D'où, effectivement, la reconnaissance que le lecteur éprouve envers votre livre, Claude Habib. Alors, un dernier mot quand même sur Kierkegaard, qui nous aura un peu obsédés.
Voilà.
Il dit ceci, la tâche consiste à conserver l'amour dans le temps. Si la chose est impossible, l'amour est également une impossibilité. Mais évidemment, l'exemple qu'il donne est presque répulsif et explique les raisons pour lesquelles il ne s'y est jamais risqué. Parce qu'il dit ceci, voilà, il décrit le bonheur conjugal. J'ai sonné, elle sait que j'ai coutume d'arriver au coup de cloche. C'est un fonctionnaire qui écrit. Elle connaît mon coup de sonnette. Alors entrer dans le vestibule, quand j'entends le tapage des enfants, où elle mêle sa voix, quand je la vois venir à la tête de la petite troupe, si enfant elle-même qu'elle semble rivaliser d'allégresse avec les marmots, alors je sens que j'ai un chez-moi. Cette femme infantilisée, cette femme à demeure, je crois que c'est un tue-l'amour absolument invincible. Et je répète que c'est, selon moi, une nouvelle possibilité pour l'amour et pour les désirs, précisément, que la liberté des femmes. Le désir d'appropriation est beaucoup plus facilement déçu aujourd'hui qu'hier et, puisqu'il est déçu, le désir peut vivre. Mais Claude Habib...
Je ne sais pas si l'allégresse de la femme à la maison, les cris des enfants, les fleurs et les oiseaux, c'était un répulsif. J'en sais rien. C'est un peu facile de dire
peut-être,
ça.
Peut-être, vous avez raison. Moi, ça me fait un peu peur, mais je comprends très bien aussi votre objection. Mais justement, à l'encontre de la scène... Claude Habib, dans votre livre, vous dites « Ce que le couple rend possible, c'est l'expérience courante du souci d'autrui, la pratique habituelle de la gentillesse ». Alors, je voudrais un peu que vous développiez ce point, parce que...
Oh, ben là, c'était aussi pour descendre des échasses, c'est-à-dire qu'il y a les hommes, ils sont spécialistes de l'éthique avec un E majuscule, et évidemment, ils sont dans le mépris de ces choses ridicules que sont faire à manger, penser à l'autre, est-ce que tu as mis ton écharpe ?
Bon, ça, c'est... Et c'est quand même la chanson de Léo Ferré, ça, c'est avec le temps.
Oui, mais c'est pour ça que ça a touché.
C'est les mots des pauvres gens, c'est très beau.
C'est pour ça que ça a touché chez Léo Ferré, parce qu'il désignait, là, il mettait le pinceau sur quelque chose qui, d'habitude, est... étouffant dans la gentillesse courante. Bon, donc moi je voulais juste désigner ce reposoir du bien. Non seulement ces petits gestes de bonté qu'on a quand on est en couple, mais à quel point ça fait du bien de pouvoir penser, faire plaisir à quelqu'un, qu'il y ait dans le monde quelqu'un à qui... Je veuille faire plaisir ce soir. Qu'est-ce que c'est porteur dans la journée d'avoir autre chose que des pensées hargneuses ou des pensées haineuses ou
des pensées égoïstes,
belliqueuses ou égoïstes.
Ou égoïstes, oui.
Oui, des pensées d'ambition.
Oui, c'est quand, là, même, c'est quand même une forme d'aliénation qui n'est pas un esclavage, quoi. Dans la passion d'une part, mais aussi dans la vie à deux. On n'est pas complètement son propre maître.
Dans la vie courante, c'était un peu ça que j'entendais quand vous disiez être à la hauteur de ses engagements, on s'engage et puis ensuite il faut tenir pour la vie. Moi, ce n'est pas du tout les justes noces et le caractère d'engagement pour la vie, c'est la pratique courante, le être à deux tout le temps qui m'intéresse. Pas du tout la promesse, mais l'accomplissement permanent. C'est pour ça que je parle tout le temps de synchronie.
Oui, alors, moi, je ne crois pas que votre livre soit uniquement descriptif, Claude Habib, mais je le vois bien, il est aussi très normatif. Vous défendez une conception de la vie à deux, avec laquelle je suis en partie d'accord, mais qui, encore une fois, je le disais tout à l'heure, ne me semble pas du tout menacée. C'est ce que nous vivons à peu près tous, la gentillesse, les petits bisous, les câlins.
Mais il y a une obsolescence quand même, une obsolescence
du couple.
Aujourd'hui, la durée n'est plus une valeur à laquelle on veuille sacrifier quoi que ce soit, d'où effectivement la succession de ces expériences conjugales, alors que dans le livre de Claude Habib, la durée a une importance cruciale.
C'est vrai, mais alors, est-ce que la durée est une valeur en elle-même ? Je ne suis pas certain. Je pense que le couple n'est pas une course d'endurance. Nous ne nous lançons pas dans la vie à deux pour faire un marathon et tenir 50-60 ans.
C'est ce que les libertins ont toujours dit. C'est une vanité de l'obstination.
C'est une vanité d'obstination et je suis absolument d'accord avec cela. Ce qui compte dans un couple, c'est la qualité du lien. Et c'est pour ça que certains couples qui durent nous paraissent, vus de l'extérieur, assez effrayants.
Vu de l'extérieur, ça n'a pas d'intérêt.
Ah si, quand même, pour les gens qui les fréquentent, c'est quand même... Il y a des gens qui dégagent une générosité et d'autres qui dégagent une certaine mesquinerie. Je pense que nous vivons en société...
Il y a des célibataires mesquins aussi.
Oui, et bien sûr, le couple n'est pas une société à deux. Et quand même, les plus belles passions, puisque vous parlez de la vie quotidienne, on va en parler jusqu'au bout, les plus belles passions agonisent souvent sur des chaussettes pas rangées, un lit qui n'est pas fait, une vaisselle qui traîne. Et faire abstraction de ces problèmes matériels et domestiques qui désormais touchent l'homme comme la femme, car nous sommes tous assignés aux tâches ménagères, c'est quand même, je crois, brosser un tableau un tout petit peu idyllique. C'est-à-dire qu'au fond, si j'avais un reproche...
Je ne demande surtout pas de faire abstraction de ça.
Oui, si j'avais
quand
un reproche
je parle
à
de synchronie, c'est de s'occuper de ça tout le temps.
Vous parlez trop de l'amour tel qu'il devrait être et non pas tel qu'il est dans ses misères et dans ses beautés.
Mais Claude Habib.
Qu'en savez-vous ?
Ah ben parce que j'ai lu votre livre et mais je vous écoute.
Quand savez-vous que l'amour n'existe pas ainsi ? Quand savez-vous que...
Ah ben c'est ce que j'ai vécu moi, je ne...
Non, chacun... Oui, donc vous protestez chacun de votre expérience qui... Votre expérience ne converge pas.
Ben je veux dire que l'attention au bien d'autrui dont je parlais, c'est de... Qu'est-ce que je lui fais à manger ce soir ? Et mon Dieu, il n'aime pas que mes chaussettes traînent. C'est-à-dire que c'est pour régler... En particulier, toutes ces irritations dont vous parlez, le souci, la vigilance amoureuse. Et s'il y a une allégresse féminine, elle peut être investie justement non pas dans un pépillage fatigant, mais dans une réelle bienveillance et une sollicitude intelligente. Je veux dire, il n'y a pas de contradiction entre l'intelligence et le cœur. On peut avoir, d'ailleurs... Je paraphrase votre titre, Alain. On peut avoir une intelligence du cœur pour que la vie, dans sa quotidienneté, soit heureuse. Il n'y a aucune raison que...
Bien sûr, mais vous êtes une sainte, Claude Habib, et j'aurais aimé rencontrer une femme comme vous, parce que la discorde, quand même, rythme aussi la vie du couple, et à mon avis, de façon nécessaire. Donc je ne crois pas qu'on puisse se dire « je suis un cœur bienveillant qui ne se soucie que du menu du soir pour mon compagnon ou ma compagne ». Il me semble qu'il y a dans le couple plus d'exigences, mais aussi plus de tensions.
Non, mais si je me souciais que du menu du soir, il m'aurait quitté, donc ce n'est pas de seulement cela.
Non, parce que vous preniez cet exemple. Il me semble que la gratitude que nous pouvons avoir envers l'être aimé, c'est qu'il nous supporte tel que nous sommes et qu'il nous supporte beaucoup plus que nous nous supportons nous-mêmes.
Peut-être
c'est
aussi,
cela la beauté du couple, à mon avis.
Et peut-être aussi que l'amour fait qu'on ne s'abandonne pas soi-même à toutes ses humeurs, qu'on veuille...
Oui, on se retient.
Justement, on se retient.
Oui.
Et on veuille quand même présenter à l'autre, jusque dans l'intimité, un visage aimable. Mais
absolument.
Je voudrais vous citer... Un auteur, j'arrête avec Kierkegaard, je vous rassure, Pascal Bruckner, un auteur que vous aimez, un philosophe que vous avez connu, dont vous parlez, et vous avez quelques très belles phrases sur lui dans l'autobiographie à paraître, puisque vous avez fait votre maîtrise avec lui, je crois, Vladimir Jankélévitch. Et dans ce traité des vertus, auquel je ne cesse de revenir, en dépit de son titre que d'aucuns jugeraient rétrograde, il a cette phrase magnifique, il est moral d'aimer, quel que soit l'aimé, et même si l'aimé n'est pas aimable, c'est-à-dire ne mérite pas l'affection que nous lui portons, car l'amour, s'il est sincère et passionné, a une valeur catégorique et justifie à lui seul les aberrations les plus singulières de l'amant. Une fois au moins dans sa médiocre vie, l'homme le plus sec, tandis qu'il était amoureux, aura connu la grâce de vivre pour un autre, pour une femme. Et peut-être que c'est quand même ça aussi, la vie amoureuse au long cours. On vit pour soi, et pas seulement pour soi. Donc, alors, il y a des discordes, mais il y a aussi cette possibilité de ne pas être que pour soi, ou pour la mort, mais pour autrui.
Oui, et d'ailleurs, ce vivre pour l'autre, je trouve, se manifeste de façon particulièrement éclatante dans le suicide des vieux amants. C'est une chose à laquelle je suis très sensible, probablement parce que je vieillis et que j'y songe, mais je pense au très beau livre d'André Gorz, paru en 2007, où il explique qu'il est retombé amoureux de sa femme qui a 82 ans, qui a perdu 10 centimètres. Il dit désormais « Mon seul désir, c'est de sentir ton corps contre le mien ». Et ils sont partis tous les deux en se suicidant pour échapper justement au diktat de la nature, et je suis très sensible à ces hommes et à ces femmes qui décident
de partir ensemble
et de ne pas attendre que la nature en eux prononce le verdict.
Alors justement là, Claude Habib, c'est le dernier chapitre de votre livre. C'est une question en effet qu'on se pose à un moment donné et qui angoisse, c'est-à-dire vais-je survivre à l'être que j'aime ? Qu'est-ce que survivre à son compagnon ou à sa compagne ? Et vous avez choisi quand même d'écrire, de terminer votre livre sur cette réflexion. Pourquoi ?
Oh, vous savez, je commence par l'ennui, je finis par la mort. C'est mon optique de ne pas faire de publicité. J'ai réellement pas envie de vendre la vie de couple en la présentant comme une solution pour... Pour quiconque, ce n'est pas une solution et c'est une institution fragile, c'est une institution qui nous laisse en plan. L'un des deux, le survivant, n'aura pas été dans un nous jusqu'au bout. Donc c'est une communauté bancale, c'est une communauté qui ne protège pas jusqu'au bout. Alors il y a la solution que vous dites du suicide des amants, c'est le vœu de Philémon et Baucis à Zeus. Donc on comprend bien sûr ce désir de ne pas survivre. Vous m'avez traité de sainte tout à l'heure, moi les saintes je trouve ce sont les veuves, celles qui arrivent à esseler, continuer dans ce moment où là il n'y aura plus de désir, il n'y aura plus d'amour et il n'y a plus que le mausolée, il n'y a plus que la mémoire. C'est ça qui me paraît la vraie difficulté.
Dans notre époque où précisément on semble tout sacrifier à la beauté des commencements, il y a un romancier qui s'est penché obstinément sur cette question, c'est Milan Kundera. Tamina qui survit à l'homme qu'elle a aimé dans le livre du rire et de l'oubli, un homme qui survit à sa femme dans l'ignorance.
Oui.
Et c'est aussi ce qu'il écrit, je trouve, de manière magnifique, à la fin de son essai « Les testaments trahis ». Un mort que j'aime ne sera jamais mort pour moi. Je ne peux même pas dire je l'ai aimé, non, je l'aime. Et si je refuse de parler de mon amour pour lui au temps passé, cela veut dire que celui qui est mort est. C'est là peut-être que se trouve la dimension religieuse de l'homme. Et je vois là aussi une protestation magnifique contre l'article de Freud sur deuil et mélancolie. C'est-à-dire, voilà, le travail du deuil vise à nous arracher à la mélancolie. La libido doit quitter le mort pour se rattacher au vivant. Il dit ça de manière très abrupte. Et, et là, on voit Kundera prendre, si j'ose dire, le parti de la mélancolie. Il y a, et ces saintes, ces veufs ou ces veuves héroïques aussi. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas, elles se laissent travailler par le deuil plutôt que de travailler et être disponibles. Alors je ne dis pas que c'est une solution, bien entendu non. Mais enfin,
la mélancolie
méritait d'être traitée autrement que comme une pathologie. C'est peut-être aussi le destin de l'amour.
Ah ben, si on est conjugaliste, on pense bien sûr jusqu'à ce que la mort nous sépare, et la mort nous sépare est à l'intérieur de la promesse elle-même.
Oui, alors
Pascal Bruckner.
Pour nous réconcilier avec Claude Habib, je dirais que nous souffrons aujourd'hui des mythologies du paroxysme, et je cite un livre de Raja Rao, un penseur indien qui était ami de Malraux, qui avait épousé une Française, avait divorcé. Et il expliquait que vous, en Occident, vous mettez une soupe brûlante sur la table, elle refroidit petit à petit. Nous, en Orient, nous mettons une soupe froide sur le feu, elle se réchauffe. Et effectivement, si l'on veut que le couple ne cède pas au refroidissement, alors je pense que dans la vie quotidienne, ce qui tient deux personnes l'une avec l'autre, c'est avant tout le goût de la conversation commune. C'est l'appétit de pactiser avec le temps. Et c'est cela qui fait que nous avons envie de retrouver jour après jour la personne qui nous est chère.
Donc là, je suis absolument d'accord avec vous et pas d'accord avec votre Indien, parce qu'on ne va pas retourner au mariage arrangé. Donc,
il n'est pas sûr que le retour à une certaine tradition ne soit pas un moyen de sauver nos amours imparfaites. Je me demande si nous n'avons pas trop vite tiré un trait sur le passé et sur nos propres parents.
Nos parents sont mariés par amour.
Oui, je ne pense pas qu'on puisse en effet revenir sur cette conquête. En tout cas, merci beaucoup Pascal Bruckner, merci Claude Habib. Je rappelle, Claude Habib, le titre de votre livre, « Le goût de la vie commune », chez Flammarion. Vous aviez publié donc au Seuil « Le mariage d'amour a-t-il échoué ?» Pascal Bruckner, et vous allez publier dans quelques jours chez Grasset, j'y ai fait référence, « Un bon fils ». Une réflexion autobiographique. Les références bibliographiques, vous les trouverez sur le site réplique franceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Nochard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Bernard Laniel. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.